Je pensais jamais avoir autant de points en commun avec Catherine, mais je pense que le fait qu'on ait toutes les deux une condition dégénérative, bien, ça nous a vraiment rapprochés. Je m'appelle Audrey Metcalf et j'ai la fibrose kystique. À cause de ça, on me dit souvent que je suis donc inspirante, donc courageuse. Fait que j'ai eu envie d'inviter des gens qui vivent avec une différence pour enfin leur poser une fois pour toutes la question « Je sais pas comment tu fais ». J'ai avec moi aujourd'hui Catherine Théroux, qui est chroniqueuse balado à Ça me regarde et qui vit avec le syndrome d'Usher, qui est une condition dégénérative qui fait en sorte qu'elle évolue avec une surdité et une basse vision. Salut Catherine!
Salut Audrey!
Ça va bien?
Ça va bien, c'est spécial, chroniqueuse balado, mais maintenant invitée balado.
Oui, c'est ça, il y a une belle continuité là-dedans. Tout merci d'avoir accepté de venir au balado. D'entrée de jeu, là, le fameux « comment tu fais », c'est-tu quelque chose qu'on te pose souvent, ça?
Trop. Ouais, souvent, hein? C'est comment tu fais pour te lever le matin, comment tu fais pour rester souriante, comment tu fais pour travailler, comment tu fais... En gros, c'est comment tu fais pour vivre.
Ouais, c'est ça.
C'est ça la question qui sous-tend toutes ces questions-là.
Comment tu fais pour te lever le matin?
Ah, écoute, je me tourne de bord, je mets mes pieds à terre puis je me donne une soignée.
Mais c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Mais y a-tu aussi une question que tu es tannée d'entendre?
Je suis pas tannée de l'entendre, mais ça me fait toujours un peu rire. C'est la question, ouais, mais avec des lunettes, ça t'aiderait-tu? Je suis comme, je pense que si ça m'aidait, il y aurait tous les spécialistes qui me l'auraient proposé bien avant que toi, tu m'en parles. Donc, je trouve ça toujours un petit peu cocasse que la personne veut aider, évidemment, mais m'arrive avec une solution qu'elle pense qu'elle est la première. Mais des fois, des personnes me demandent comment ça se fait que les lunettes, ça ne fonctionne pas dans ton cas. Et là, je comprends l'interrogation, puis ça me fait plaisir d'y répondre. Mais quand c'est juste des lunettes, ça t'aiderait-tu? La réponse est non.
Puis ta condition, dans le fond, ton syndrome fait en sorte que c'est quelque chose qui évolue, ce que je peux comprendre très bien parce que moi-même, ma condition, elle évolue aussi. À quel moment, tu dirais, dans ton, mettons, dans ton enfance ou ton adolescence, t'as senti que t'avais quelque chose, je vais dire de plus que les autres, là, pour pas dire quelque chose de différent des autres, mais à quel moment tu l'as réalisé?
C'est une bonne question. En fait, je pense que je l'ai surtout réalisé quand je suis arrivée à l'école, parce que c'est le contact avec les autres qui te fait réaliser que t'es pas comme les autres. Moi, chez moi, quand j'étais enfant, ma mère avait une garderie, puis elle avait d'autres enfants qui avaient d'autres conditions que la mienne. Donc, moi, je détonnais pas nécessairement dans ce groupe-là, mais rendu à l'école, je voyais les enfants, par exemple, qui rentraient dans l'école en courant après la récréation. Moi, j'étais sur le bord de la porte parce que je voyais plus rien. J'étais tellement éblouie, les changements de lumière. J'échappais quelque chose par terre. Quelqu'un le ramassait super rapidement. Moi, ça me prenait du temps. Donc, c'est vraiment en me comparant avec les autres enfants que, oups, je me suis dit, je suis différente. Puis aussi, évidemment, le fait d'avoir des plans d'intervention pour mon handicap, le fait d'avoir une interprète LSQ en classe avec moi à ce moment-là, bien, ça me mettait vraiment... visuellement, là, j'étais, à part des autres, j'étais la seule qui avait cette aide-là. Donc, c'était difficile de ne pas m'en rendre compte.
Puis penses-tu que les autres s'en rendaient compte? Est-ce que tu pouvais comme leur cacher ou c'était évident?
Oui, bien, je pouvais pas vraiment leur cacher avec l'interprète. Puis au niveau visuel, ça remonte tellement loin. Je sais même pas si les autres enfants étaient au courant que j'avais un problème visuel. Mais oui, les autres étaient au courant. Tu sais, je me souviens que des fois, je me suis fait dire « Ah, t'es moins intelligente que les autres parce que ton appareil, ils t'ont enlevé un bout de cerveau pour le mettre. »
Ah, mon Dieu!
Ce qui est pas vrai en passant. Mais
merci de la préciser.
Ah, oui, c'est ça, c'est à préciser. Ça, c'est une autre question niaiseuse.
Oui, mais,
non, c'est pas vrai. Donc, c'est certain que les enfants, quand ils sont jeunes, dès que tu es différent du groupe, ben là, tu te fais tout de suite stigmatiser. Puis je pense qu'à ce moment-là, j'avais une certaine confiance en moi. Mais tu vois, une fois que je suis rentrée au secondaire, à ce moment-là, je n'avais pas d'interprète LSQ. En classe, j'en avais pas besoin. Donc là, j'ai pu cacher aux autres ma condition. Puis à ce moment-là, je l'ai fait. Ouais, ben là, je pense qu'une fois que tu es rendue à pré-ado, ado, ben le jugement des autres aussi est vraiment plus...
Oui.
Difficile à vivre, puis tu vas arriver dans une nouvelle école, tu veux vraiment repartir à neuf, si on veut. Moi, j'avais très peu d'amis du primaire qui étaient à mon école secondaire, je voulais comme me refaire, si on veut. Puis j'avais peur aussi du jugement à ce moment-là, et je voulais pas détonner, donc je l'ai caché, à part à mes amis très, très proches, là, il y a personne qui le savait à l'école.
C'est fou, hein? Moi aussi, j'ai fait la même affaire. Jusqu'à temps, moi, dans ma tête, c'est niaiseux, mais les gars... Ils voudraient rien savoir de moi si je disais que j'avais une maladie parce que j'avais peur qu'ils me pensent contagieuse. Puis Pourtant, j'obsédais pas avec les gars tant que ça. Là. Je sais pas pourquoi c'était ça mon réflexe, mais puis quand j'ai eu mon premier chum puis que j'ai vu que ça le dérangeait pas tant que ça, j'ai commencé à en parler. Mais le monde, puis tu me diras si t'es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que le monde de l'enfance, de l'adolescence versus le monde adulte, c'est deux choses complètement différentes. Puis on dirait qu'un coup dans le monde adulte, il y a comme une facilité. Je sais pas pourquoi, peut-être que t'as rien d'explication à ça, mais pourquoi c'est comme plus facile un coup adulte de l'assumer, tu sais?
Je pense que ça dépend des gens, mais je pense aussi que ça dépend de ton environnement. Parce que à l'école, veux pas, tu te fais imposer des amis, tu te fais imposer un environnement. Oui. Tandis que dans le monde adulte, tu choisis plus de qui tu t'entoures. Donc, comme tu as parlé, ton chum, tu l'as choisi, oui. Puis vous êtes encore aujourd'hui ensemble parce qu'il t'a fait sentir bien là-dedans.
Oui,
sûrement pour plein d'autres raisons, mais entre autres, pour ça, il t'acceptait comme tu étais. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui aide, mais... J'ai goût de te dire, moi, ce qui m'a vraiment aidée à accepter mon handicap et en parler, c'est un moment clé dans ma vie où j'en parlais pas. Puis, à un moment donné, j'ai pas eu le choix d'en parler, de le montrer au monde extérieur parce que la canne blanche est rentrée dans ma vie à cause du handicap qui dégénérait. Donc, à ce moment-là, c'est assez dur de faire comme si tu n'avais pas d'handicap visuel quand tu te promènes avec une canne. Et... J'avais postulé pour être rédactrice pour un blog qui s'appelle Ton Petit Look, 2015-2016. À l'époque, les blogs étaient super lus et c'était une super belle gang de filles intéressées par les mêmes sujets que moi, tout ça. Et à un moment donné, il y a eu un party, un barbecue.
Mm-hmm.
Et moi, je voulais les rencontrer en personne, ces filles-là, parce que c'était tout en ligne. T'sais, on se parlait, mais en ligne. Et j'ai pas eu le choix de faire ce coming out, là, comme je le dirais, parce que ça allait être évident que j'avais un handicap visuel.
C'est devenu visible, c'est ça qui arrive.
C'est ça. Ouais. Et j'avais besoin d'accommodement parce que c'était en soirée, donc encore plus problématique pour moi à ce niveau-là. J'en ai parlé. Ça a tellement été bien reçu. Je me suis fait dire, ben oui, viens-t'en, ça va être le fun, on va t'accommoder. Puis c'est ce qu'elles ont fait. J'ai eu une super belle soirée. Puis à partir de là, on dirait, je me suis dit, ben, Colin, en fait, c'est plus facile pour moi d'en parler parce que les gens comprennent puis m'accommodent. Puis moi, je passe une meilleure soirée. Puis c'est comme s'il y avait un petit déclic qui s'était fait en me disant, ben les gens qui n'ont pas le goût de m'accommoder puis d'être des humains décents avec moi, on va dire,
ouais.
Ça ne me tente pas de les avoir autour de moi.
Tu peux les rejeter.
Exactement. Ouais. C'est sûr qu'il y a des sphères dans la vie où c'est un peu plus difficile. Par exemple, on entend beaucoup de personnes en situation de handicap qui vivent de la discrimination au travail.
Ouais,
entre autres, ça, c'est plus difficile. Là, mais je dirais, au niveau des amitiés, il y a des choix qui se font au fil du temps.
C'est vrai que tu peux choisir ton entourage.
C'est ça.
Quand tu es plus vieux. Fait que, tu sais... Puis ça reste que la réaction des gens... Tu sais, quand tu as un coming out à faire, que ce soit pour... n'importe quoi, là, pas juste le handicap. Là.
Mm-hmm.
Si les gens autour réagissent bien, ça t'encourage à mieux l'assumer puis mieux l'accepter. Fait que c'est sûr qu'il y a un lien là.
Vraiment, vraiment. Puis je pense que c'est essentiel que les gens, justement, qui sont autour puis qui reçoivent ça, le prennent bien parce que c'est ça qui va donner confiance puis ensuite générer d'autres comme ignorants parce que au party de Ton Petit Look, ça s'est tellement bien passé. Et là, j'ai écrit un article sur mon handicap sur le blog, Ton Petit Look, qui avait eu, mon Dieu, des dizaines, vingtaines de milliers de visionnements. Et c'était vraiment une espèce de coming out, mais public. Et s'en est ensuivi plusieurs représentations médiatiques dans différents médias, dont Ami Télé, puis blog, mais dont Ami Télé. Puis ça l'a fait en sorte que finalement, je me suis retrouvée dans la chaise de Sam Regarde comme chroniqueuse et d'assumer pleinement, oui, j'ai un handicap visuel, j'ai un handicap auditif. Puis c'est fou parce que de repenser à ça, par exemple, au secondaire, tu m'aurais dit, tu vas être sur un plateau de télé, c'est pas en canadien, puis tu vas dire, j'ai un handicap visuel, j'ai un handicap auditif, puis j'en parle. J'aurais fait,
Ben non, tu l'aurais pas cru parce que moi, c'est la même affaire, jamais... Mon Dieu, jamais j'aurais cru ça. Là. Je veux dire, que j'en parlerais aussi facilement de ma maladie. C'était comme, ça n'aurait pas passé à l'époque.
Mm-hmm.
Fait que là, tu sais, t'en as parlé, ça a quand même bien évolué dans le sens que t'es plus à l'aise avec ça, mais ça reste que c'est une condition qui dégénère,
mm-hmm.
qui continue d'évoluer. Puis évidemment, ça, je peux te comprendre là-dessus parce que c'est un peu ça aussi pour moi. Plus ça va, plus c'est prenant dans ta vie. Comment tu gères ça? Comment tu vis avec ça?
Bien, c'est une super bonne question pour vrai parce que je pense que tu touches au cœur de la chose. Donc, comment je fais pour gérer un handicap qui est dégénératif? Depuis que je suis toute petite, je le sais que je vais perdre la vue.
Oui.
Je ne sais même pas à quel moment on m'en a parlé. J'ai aucun souvenir de savoir tu vas devenir aveugle. Je le sais. C'est vraiment spécial. Je ne sais pas, toi, as-tu un souvenir d'un moment où tu as su?
Bien, c'est drôle parce que moi, c'est un peu comme toi. Je ne peux pas mettre le doigt sur à quel moment on m'a dit que j'allais en mourir de cette maladie-là, mais je l'ai toujours su. Tu sais, j'étais toute petite, puis dans ma tête, je me rendais même pas adulte. Mais il n'y a personne qui m'a dit « Hey, Audrey, à 20 ans, tu seras peut-être plus là. À 30 ans, tu vas mourir. » Comme... On m'en a pas parlé. Évidemment que mes parents m'ont pas dit ça. Tu sais, ils m'auraient jamais dit ça. Les médecins non plus. Fait que je le sais pas. C'est drôle, hein, comment... Puis je t'entends, puis je réalise que c'est vrai. C'est comme si inconsciemment, on le sait. Mmh. On le sait. C'est comme en nous. C'est vraiment bizarre.
Vraiment. Tu sais, je me souviens, j'ai un souvenir super présent. J'étais à l'école primaire. On glissait sur des crazy carpets. Il y avait comme un talus là, à côté de l'école. Puis c'était tellement une belle journée là, d'hiver, la neige sur les arbres, tout ça. Puis je me souviens d'avoir pris un moment, d'avoir scanné mon environnement, puis il m'a dit « Un jour, je verrai plus ça. » Puis c'est drôle, hein, parce que j'étais très jeune, puis je m'en rappelle encore de ce moment-là comme un moment de prise de conscience où je voulais imprimer ça dans ma tête. Ça a fonctionné, je m'en rappelle encore.
Ouais.
Mais non, c'est sûr que le fait de vivre avec un handicap dégénératif, ça crée ce genre de moment-là où ouais. t'as pas le choix de t'en rendre compte puis y penser. C'est toujours omniprésent. Mais aussi, t'as beau trouver des accommodements, t'as beau trouver des solutions à ton handicap, mais veux pas, vu que ça dégénère tout le temps, t'es toujours en train de... devoir recommencer un petit peu ce processus-là d'adaptation parce que quelque chose qui fonctionne il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, ne peut ne plus fonctionner le lendemain matin. Moi, je ne sais jamais à quel moment ma vision va continuer à descendre. C'est pas linéaire. Puis même d'un jour à l'autre, c'est différent. Donc, il y a ce processus-là que je trouve qui est très difficile. Puis il y a des deuils constants.
C'est ça, exactement. C'est petits deuils par-dessus petits deuils. Tu sais, c'est pas... Il n'y a pas de moment choc. C'est toujours un peu un choc. Tu sais, chaque petit détail plus difficile va te rappeler que, OK, là, c'est tough, mais ça va peut-être l'être encore plus. Ben pas ça va peut-être, ouais, ça va l'être encore plus.
Je comprends. Ben tu sais que ça s'en vient de plus en plus difficile.
Ouais.
Donc, tu as beau savoir qu'en ce moment, tu vis un deuil. Tu le trouves difficile, ton deuil, mais il y a une petite voix dans ta tête qui se dit, hey, attends,
watch
ça
out.
Ça s'en vient, là. Fait que oui, puis il y a des deuils qui sont plus... En tout cas, pour ma part, c'est plus difficile en ce sens que, par exemple, faire le deuil de faire, je sais pas moi, du ski de manière autonome. Oui, c'était plate, mais pour moi, je me disais, ma vie sans ski, ça se vit. Tandis que le deuil de l'autonomie, là, tu sais, de dire, je sors de chez moi, je m'en vais faire mon épicerie, je m'en vais où je veux aller, je m'en vais magasiner des bobettes toute seule.
Ouais, ton indépendance.
Oui, l'indépendance, l'autonomie, ça, là, je te dirais, c'est le deuil le plus difficile que j'ai eu à faire. Puis même encore aujourd'hui, là, je l'avale pas, ce deuil-là. Je trouve ça, je trouve ça difficile. Puis j'ai peur parce que je le sais que avec le temps, ça va être de pire en pire, entre guillemets, au niveau de l'autonomie, de l'indépendance. Je suis une personne qui est super indépendante. Moi, un jour, je me suis dit, je m'en vais à l'Université de Montréal. Je suis une fille de Sherbrooke. En communication, ben c'est ça qui va être ça. Je suis partie toute seule. Je connaissais pas Montréal. Je connaissais pas personne là-bas. Je me suis louée un appart avec des colocs que je connaissais pas. J'ai pris mon backpack. Je suis partie avec Amigo Express. Puis ça, c'était comme, c'est moi. C'est moi de faire ce genre d'affaires-là.
Mais penses-tu que, justement, le fait d'avoir une condition comme ça, ça t'a poussé encore plus à être comme ça, de cette façon-là? Parce que tu... En tout cas, parce qu'on a tellement de points communs que je pense en même temps à comment, moi, ça se passe. Puis moi, je sais que je suis une fille qui est spontanée, tu sais, qui n'a pas peur de rien tant que ça parce que, justement, j'ai une urgence de vivre. Parce que j'ai... tu sais, puis dans ton cas... Même chose, j'imagine que tu ressens un peu une urgence de « faut que je fasse ça avant que je ne vois plus, faut que je fasse ça avant que... » Tu sais, est-ce que tu penses que ça t'a poussé encore plus à faire des choses que tu aurais peut-être pas osé faire autrement?
C'est drôle, hein, mais la grosse affaire, moi, à laquelle je pense quand tu me dis ça, c'est les études.
Ouais.
Depuis que je suis tout petite, on dirait que j'étais consciente, c'est drôle, hein, que mon autonomie, c'était super important pour moi et que éventuellement ça allait être mis à rude épreuve.
Ouais.
C'est comme... Je sais pas, là, il y a personne qui me l'a dit encore une fois, là, comme on disait, mais j'en ai pris conscience et je me suis dit, je veux être capable, au moins financièrement, au moins de subvenir à mes propres besoins. Puis pourtant, je viens pas d'une famille où je voyais mes parents avoir de la misère, vraiment pas. C'était en dedans de moi, je me disais, non, je veux être capable. Et pour ça, moi, mon chemin que j'ai pris, c'est vraiment les études. Puis on dirait que j'avais cette urgence-là de finir mes études avant. Je sais que ça se fait, là, étudier puis avoir un handicap visuel ou même être complètement non-voyant, mais je ne savais à quel point ça pouvait être difficile parce que juste de le faire avec ma basse vision, c'était pas évident. Donc, je voulais pas me rendre là puis me dire « Je vais-tu me décourager? » Bref. Donc, de finir mes études, j'ai fait un diplôme de deuxième cycle, puis après ça, ça a fait « Ah, oh, OK. » Mais là, après ça, c'est le marché du travail. On dirait que ça n'arrête pas. Là, après ça, c'est le marché du travail. Là, tu te dis, OK, il faut que je travaille. Puis là, je veux avoir le plus d'expérience possible pour pouvoir avoir un beau CV, pour avoir une crédibilité, pour justement pouvoir, même si j'ai un handicap visuel, avoir un emploi qui répond à... Parce que je ne veux pas faire un emploi que je n'aime pas. Je veux pouvoir m'épanouir comme tout le monde au travail. Puis c'est drôle, mais je me disais, si j'ai tout ça, on va peut-être moins me discriminer, on va peut-être
ben
voir...
Oui, ben oui, c'est ça.
Mais c'est pas de même que ça marche. Ça a été un gros coup dans ma face de se rendre compte de ça, de parler à plein de gens en situation de handicap qui ont fait un peu la même chose que moi, qui sont allés chercher des diplômes, qui sont allés chercher des expériences, puis au final, de te rendre compte, Colin, c'est pas ça qui va me sauver de la discrimination en bout de ligne.
Mais donc, c'est qu'à un moment donné, t'as toujours un peu... besoin de te prouver, tu sais, pour toi, mais pour les autres aussi.
Vraiment.
Puis t'as beau avoir un emploi, c'est pas dit que tu vas le garder si ta condition continue de dégénérer.
C'est ça. T'sais, tu me disais, comment tu vis avec la condition qui dégénère? Mais c'est toujours ça, c'est de se projeter dans l'avenir. Même petite, tu disais, ah, moi, quand j'étais jeune, je me voyais pas adulte. Bien, pareil pour moi, d'une autre manière.
Tout à fait.
Je me projetais, puis je me disais, mais ça va être quoi, ma vie d'adulte? Je vais être dans le noir complet? Tu sais, j'arrivais pas à m'imaginer. Puis là, de revoir maintenant où je suis, puis de parler à la petite Catherine, puis de dire, hey, regarde, tu passes à la télé, tu travailles dans le monde culturel, c'est ce que tu as toujours voulu. Tu t'es pas dénaturé malgré les difficultés, puis malgré les bâtons que tu as eus dans tes roues. Tu t'es pas dénaturé, puis tu t'es rendu où tu t'es rendu. Ça, je trouve ça vraiment gratifiant, tu sais, de me dire, mais c'est le futur, effectivement, puis tu sais jamais quand ça va arriver, puis faut que tu places tes pions, mais en même temps, ça dépend pas juste de toi, ça dépend de la société autour de toi. Fait que...
Puis tu sais, t'as un peu toujours l'impression aussi de, ben, en tout cas, je parle pour moi, mais je suis sûre que tu vas trouver toi aussi ça, mais c'est comme si t'as toujours l'impression qu'il faut que tu pédales pour te sortir la tête de l'eau, tu sais, il faut que tu nages bien fort, puis... T'aimerais ça des fois, juste avoir une bouée, là, qu'on te lance une bouée pour que tu puisses juste t'appuyer un peu dessus, puis avoir un break, tu sais, avoir un moment de, tu sais, je vais juste profiter, mais...
Ça me fait sourire parce que l'image que tu donnes en ce moment, je la dis tellement souvent. Des fois, je dis, j'ai l'impression de couler, j'ai l'impression de me noyer, j'ai besoin de m'accoter sur quelque chose, je regarde autour de moi, puis j'ai l'impression que je vois pas cette bouée-là. Puis, des fois, elle arrive à des moments où tu t'en attends pas ou d'une direction dont tu t'attendais pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des événements dans la vie ou il y a des personnes que tu rencontres dans la vie qui vont t'amener cette bouée-là. Puis tu fais, ah, ça fait du bien d'avoir un break. Mais comme tu mentionnes, en tout cas, pour ma part, depuis les dernières années, il est vraiment pas long, le break.
Non.
Dès que j'ai l'impression que j'ai une stabilité... Dès que j'ai l'impression d'avoir trouvé mes façons de faire, il y a un changement. Et là, repart. Puis, tu sais, toute la santé mentale aussi, là, c'est important d'en parler, là, de dire comment tu gères ça, de toujours être dans l'incertitude, l'instabilité, d'être un peu dépendant de ton environnement, dépendant des gens.
D'avoir peur, tu sais, parce que c'est sain et c'est normal, je pense, cette crainte-là qu'on a, cette peur-là qu'on a que... Tu sais, souvent, on n'osera pas le dire parce qu'on veut pas paraître vulnérable, on veut pas, tu sais, on veut montrer qu'on est fort, qu'on est bon, qu'on est... Mais elle est là, la peur. Puis il y a des moments où, ben oui, on va crasher, puis on va brailler sur notre sort, puis ça va être dur, puis ça va être...
Tellement. Ben, tu sais, j'ai l'impression que souvent, les gens vont voir les personnes en situation de handicap comme étant super courageuses, inspirantes et tout, mais c'est parce qu'ils ont accès à une façade d'elles. Oui. Moi, je ne vais pas sortir de chez nous en pleurant, en disant, là, je ne vois plus avec mon œil gauche, puis là, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Non.
Mais on choisit ce qu'on montre aux gens.
C'est ça. Je vais sortir de chez nous, mais ça se peut qu'une fois que je rentre chez nous, là, c'est difficile. Fait qu'il faut que les gens prennent conscience aussi que, tu sais, comment tu fais pour tout le temps sourire? Bien, j'ai le goût de dire, je ne souris pas tout le temps.
Oui, c'est ça.
C'est ça, je ne souris pas tout le temps. C'est juste que toi, tu ne le vois pas. Mais je pense que aussi il faut accepter ça. Puis ça m'a pris tellement de temps. Je me tapais sur la tête. Là, j'étais la première à me taper sur la tête, à me dire, ben voyons, pourquoi tu pleures? Tu es capable de... Si... Tu sais, de toujours comme un peu me remettre en question. Puis, puis à un certain moment, je me suis dit, qu'est-ce que tu dirais, toi, à ta meilleure amie, si elle vivait la même chose que toi en ce moment? C'est une façon pour moi de me rappeler d'être douce avec moi. Puis ça, ça me permet, je le suis pas toujours, mais j'essaie très fort.
Ça se travaille.
C'est un work in progress, comme on dit. Puis ça, ça me permet vraiment de faire, OK, garde, t'as le droit. Parce que ce qui arrive, c'est que quand tu la vis pas, ton émotion, elle te suit toujours.
Ça s'accumule aussi,
ben oui, t'sais. Ben oui, ça s'accumule. Puis une autre façon que je fais aussi pour bien gérer ça, ben du moins le mieux que je peux, c'est vraiment de me rattacher à ce qui me fait du bien dans la vie. Tu sais, des fois, quand ça va pas bien, là, quand je suis un peu, comme on dit, là, submergée, là, puis j'ai l'impression que je me noie, je fais une liste, là. Ça peut être mental, ça peut être sur mon cellulaire, de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait du bien. Bon, j'aime ça aller à des événements culturels. J'aime ça aller au resto. J'aime ça voyager. J'aime ça passer du temps avec des amis. Bon, tu vois le genre de petite liste. Puis me donner le devoir dans les semaines qui viennent de faire ma petite liste et d'en être conscient, de me nourrir de ce qui me fait du bien, de ne pas rester dans cette émotion-là puis me renfermer sur moi. Ça, c'est une façon que j'ai trouvée de...
Bien, dirais-tu que c'est un peu ça, justement, ton espèce de formule gagnante de comment tu fais, justement, de dire, bien, ta liste de ce que t'aimes, de ce que t'apprécies, de ce qui te fait du bien, et parallèlement à ça... D'être capable d'avoir de l'empathie pour toi-même, tu sais, de la compassion pour toi-même, parce que c'est un peu ce qui ressort de ce que tu m'as dit, là. Ce serait tout ça comme ta recette gagnante?
Oui, bien, pour moi, du moins, là, ça, c'est une bonne recette. Puis je pense qu'il y a aussi la gratitude. Tu sais, ça a l'air niaiseux, là, soit content, gna gna gna, mais des fois, je me ramène, puis je me dis, j'échangerais-tu ma vue, par exemple, pour... mes amis, mon chum, mes parents, tu sais, est-ce que j'aimerais mieux voir ou avoir ces gens-là autour de moi? Puis la réponse, c'est, ben j'aime mieux avoir ces gens-là autour de moi. Fait que, tu sais, ça me ramène un petit peu à ce que j'ai dans la vie, sans me dire c'est rien ce que je vis, là, tu sais, comme on disait, avoir de la compassion, mais...
Oui, oui, c'est ça.
De quand même se ramener à ce qui va bien dans la vie, ça permet de, comme, pas basculer trop de l'autre côté, là.
La résilience que tu as, là, parce que visiblement, tu en as une, là, on va se le dire. Est-ce que c'est quelque chose que tu savais que tu avais en toi? Tu sais, mettons, on recule là, la petite Catherine ou l'ado Catherine, cette résilience-là qui est venue avec l'évolution de ta condition, puis tu sais, le fait d'en parler, tout ce que tu es aujourd'hui, finalement, là, c'est-tu quelque chose que tu savais que tu avais ou que tu apprends là que tu as?
C'est tellement une bonne question. Je pense que j'ai toujours su que j'avais la petite flamme qui m'incitait à aller vers l'avant. Tu sais, j'ai pas une personnalité de quelqu'un qui fait rien, entre guillemets, là. Moi, quand il y a un problème, là, j'embarque dans les solutions, j'embarque dans l'action. Donc, oui, j'ai toujours eu cette flamme-là, mais comme tu dis, d'en parler aussi ouvertement, d'aller autant... cogner aux portes, ça, non. Je pense qu'à ce moment-là, tu m'aurais dit ça, puis j'aurais fait « Ah, 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 oui, c'est bonne. Ça. » C'est ça. Mais le fait de le faire, ben ça me fait juste prendre conscience que j'aurais peut-être dû le faire avant. Je me serais peut-être évité ben du trouble.
Mais tu sais, en même temps, moi, je pense beaucoup que la force qui est en nous, là, la résilience qu'on a, là, on dirait que elle ressort pas tant qu'on n'est pas confronté à quelque chose de vraiment, je vais dire, grave ou de vraiment difficile. Ouais. Ce qui fait en sorte que peut-être que tu aurais voulu avoir ça avant, puis ça serait pas venu quand même, tu sais. Ouais. En tout cas, c'est l'impression que moi, j'ai tout le temps. Là. Mm. Puis c'est un peu en parlant avec des gens ce que je constate. T'sais. Fait que dans le fond...
Ben, le comment tu fais, il est là, en fait. Ben, c'est que la personne qui te pose la question, elle se projette en toi en se disant « Hey, moi, je serais pas capable. Ouais. Comment toi, tu fais? » Mais souvent, ces gens-là, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est si eux, ça leur arrivait, sûrement qu'ils trouveraient les ressources,
ben oui.
la force puis la résilience. Je ne dis pas que ça arrive du jour au lendemain, mais le chemin fait en sorte qu'à un moment donné, tu le trouves. Puis je pense que c'est juste l'instinct de survie, en fait, qui ben embarque. Puis tu te dis...
C'est fort, ça. Là.
Ben c'est ça. Je suis capable de continuer à vivre malgré tout. Je vais le faire puis je vais trouver une façon de le faire.
Exactement. Puis on s'adapte. Notre capacité d'adaptation, des fois, est pas mal plus forte qu'on pense. Là. Fait ouais. que, mais il suffit d'être confronté à vraiment une grosse épreuve. Tu sais.
Ouais, c'est vraiment. Ça qui... Mais le mot de la fin, là, je dirais, je pense que c'est important aussi que les gens autour aident ces personnes-là parce qu'on a tendance à dire ah, ils sont tellement résilients, ils sont tellement courageux, ils sont tellement inspirants. Oui, mais il faut nous aider aussi là-dedans, dans le sens qu'il faut rendre la société plus accessible, moins capacitiste et tout. Parce qu'à un moment donné, t'as beau être résilient, inspirant, courageux et tout, mais quand t'es toujours en train de frapper des murs, ça se peut que ça s'effrite. Donc, moi, je pense que c'est important aussi que de pas individualiser puis personnaliser le problème. Mais...
Et que les gens osent aider et aussi qu'on ose demander de l'aide parce que c'est deux...
Ça va des deux sens.
C'est ça, exactement. Et merci, Catherine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de t'être prêtée au jeu puis d'avoir accepté de t'ouvrir autant.
C'est comme une petite psychothérapie, mais publique.
Oui, c'est ça. Mais ça fait du bien parce que moi aussi, ça m'a fait du bien. Je me suis reconnue dans tellement de choses que tu as mentionnées. Là. C'est... En tout cas, merci. Un gros merci à toi.
Merci à toi aussi.
Pour découvrir les contenus d'Ami Télé, visitez notre site web amiplus.ca. C'était Je sais pas comment tu fais. Recherche et animation, Audrey Metcalfe. Invité, Catherine Théroux. Réalisation, Raphaël Mercier. Une production Ami Télé 2024.